Donc, on va poursuivre avec cet enseignement. On va un peu parler de l'aperçu, juste un aperçu sur la mission. Après les exposés de pasteur Deo ainsi que du pasteur Jean-Claude, on se rend compte que la mission est loin d'être ce que nous imaginons. On va revenir à cela, mais très souvent, quand on parle de la mission, nous, ce que nous voyons, ou dit du coup plutôt, c'est tout simplement l'évangélisation. Aller prêcher des âmes. Et pourtant, ça, ce n'est qu'un élément, ce n'est qu'une branche de la mission. La mission est très vaste. Pourquoi nous tenons à exposer ces choses calmement? Parce que nous pensons et nous croyons que le centre missionnaire Philadelphie a une forte vocation missionnaire. Sans la mission, nous n'avons pas de raison d'exister. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de ces choses. Je commencerai par donner quelques fondements des Écritures et puis on va évoluer. Pourquoi on va donner cet enseignement, donc quelques objectifs de cet enseignement. D'abord, premièrement, cela nous permettra de comprendre l'origine et le fondement de la mission. Deuxièmement, comprendre la mission elle-même. Troisièmement, connaître la relation qu'il y a entre l'Église et la mission. Quatrièmement, définir la mission de l'Église dans le monde. Donc ça, c'est les objectifs que nous pensons qu'à la fin de cet enseignement que nous allons tous plus ou moins avoir. Pour ce thème des structures, vous avez une table des matières. Nous commencerons par parler de la création et du royaume de Dieu sur terre. Et puis nous parlerons de l'élection d'Israël. En troisième point, nous parlerons de fondement de la mission et l'Église. Quatrièmement, nous parlerons de la mission de l'Église dans le monde. Et enfin, nous parlerons de la fenêtre 10-40. Plusieurs ont entendu parler de cette fenêtre, mais nous donnerons un peu plus d'informations. Création et royaume de Dieu sur terre. Si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, dans son premier chapitre, du verset 26 plutôt jusqu'au verset 28, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On est dans Genèse, le premier chapitre du 28 au 29. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, quand on analyse ces textes, il y a quelques éléments que j'aimerais que nous puissions considérer, c'est que premièrement, l'homme est créé à l'image de Dieu. De par ce que nous dit la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et comme conséquence, ce qui est du reste la pensée de Dieu pour l'homme, c'est que Dieu attend que l'homme puisse refléter sur terre son image. Amen. Il crée l'homme à son image, il l'envoie sur terre afin que l'homme puisse refléter à la création l'image que Dieu est. De manière à ce que quand la création regarde l'homme, que la création puisse avoir une idée sur ce que est Dieu. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Chacun dans son domaine, chacun dans son secteur, que nous puissions tous manifester au monde ce que Dieu est. Nous allons revenir avec un peu plus de détails. Et comme la Bible dit dans Jean 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dieu crée l'homme afin que l'homme puisse dominer, afin que l'homme puisse assujettir la terre, afin que l'homme puisse régner. Autrement dit, Dieu crée l'homme afin que l'homme puisse dompter la terre. Malheureusement, ça c'est quelque chose que nous ne faisons pas particulièrement dans nos pays du tiers-monde. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'au niveau de l'Église, ce sont des choses dont on ne parle pas. Les gens ne réfléchissent pas par rapport à cette réalité. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre afin seulement de nous convertir et d'aller au ciel ou pour vivre seulement la vie spirituelle. Mais dans la pensée de Dieu, quand nous sommes venus sur terre, c'était pour dompter la terre. C'était pour assujettir la terre. Assujettir la terre, c'est-à-dire quoi? Là où il n'y avait pas de vie, que nous puissions amener la vie. J'aime ce passage d'Ésaïe qui dit « Le tiers rendra le pays habitable ». Nous sommes allés avec les amis de l'autre côté et pendant nos voyages, il y a quelque chose qui m'a fort épaté. De fois, on voyait des autoroutes ou des très belles routes en plein milieu de montagnes. Et pas de montagnes, de montagnes avec des pierres. Alors on se demandait, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à pierreuses comme ça pour faire passer des routes, pour construire des ponts? On se rend compte que sous d'autres cieux, les gens sont en train d'accomplir la pensée de Dieu qui est celle d'assujettir la terre, de dominer la terre. Dieu nous a donné la terre à l'état brut, mais c'est à nous de travailler la terre, de travailler le produit de la terre et d'en faire un produit fini. Et nous, Église, nous nous cramponnons entre nos quatre murs de l'Église, nous pensons que ces choses-là ne nous concernent pas. Bien-aimés, nous devons sortir de cette conception. Dieu nous a envoyés ici-bas afin que nous puissions changer la terre. Si vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La pensée de Dieu, c'est que son règne quitte le ciel et que son règne vienne s'établir sur terre. Amen. Et le Seigneur va le faire au travers de l'Église, et pas seulement dans le domaine spirituel, mais même dans le matériel, même dans le social, dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Voilà pourquoi, au Centre Missionnaire Philadelphie, nous encourageons les gens à étudier, nous encourageons les gens à travailler, nous encourageons les gens à entrer dans des secteurs politiques, dans l'économie, dans tous les domaines, que nous puissions maîtriser ce que Dieu nous a donné afin d'imposer le règne de Dieu là où nous sommes. Alléluia. Écoutez bien aimé, aujourd'hui dans le Parlement, pas seulement ici, mais dans tous les autres pays du monde, il y a certaines lois qui passent. Malheureusement, en Afrique du Sud, quand on se promenait, on était choqués, on voyait des panneaux, des affiches où on disait « Free abortion, without pain ». Donc, avortement libre, gratuit, sans douleur. Pourquoi? Parce que l'avortement est légalisé en Afrique du Sud. La prostituée est légale. La pornographie est légale en Afrique du Sud. Pourquoi? Le sida aussi est légalisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand dans des parlements de nos pays, des enfants de Dieu comprennent que nous devons assujettir et imposer le règne de Dieu, nous allons postuler, nous allons briguer de postes politiques, nous allons aller à la députation, nous allons devenir les honorables, hein, de manière à ce que quand on doit faire passer des lois, que l'Église puisse peser. Nous passons trop de temps à prier pour la transformation de cette nation, mais cette transformation ne viendra pas aussi longtemps que nous ne nous investissons pas, nous ne mettons pas la main dans la pâte. Comment voulez-vous que Dieu change les choses au sein de la nation aussi longtemps que les mains dont il a besoin pour travailler sont croisées mais au dos? Pourquoi? Parce que nous avons eu une mauvaise conception de la vie chrétienne, du mandat de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés sur terre. Il aurait pu nous envoyer sur Mars ou sur Jupiter. Mais pourquoi tu es sur terre? La pensée de Dieu, c'est que tel il est que tu manifestes cela dans ce monde. Nous allons revenir aussi. Il y a quelque chose de très intéressant que nous allons voir. Donc, cela nous fait penser au fait que l'homme a été créé pour cultiver, pour garder le jardin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme pêche, dans Genèse 3, c'est la décadence due au péché, c'est la chute de l'homme, la chute de l'humanité, c'est le chaos, la déchéance, la séparation d'avec Dieu, l'homme est rejeté loin de Dieu, c'est la mort spirituelle. Alors, je vais pas trop rapidement, hein? Ça passe, hein? Ok. Alors, dans le livre de Genèse, le 3e chapitre, nous voyons dans le verset 15, ainsi que... Oui. Déjà, le verset 15, la Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci écrasera la tête et... voilà. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et je sais pas si c'est une erreur, à quel niveau, si c'est pas le verset 25, c'est le verset 21, où la Bible dit, l'éternel Dieu dit, l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, c'est que déjà dans le chapitre 3 du livre de Genèse, le Seigneur est en train de nous donner des indices du plan de la rédemption qu'il avait arrêté depuis l'éternité. Alléluia. Donc déjà par ces faits, que l'Éternel puisse tuer un animal, prendre la peau de cet animal pour revêtir l'homme, cela était déjà l'image de la mort de Christ à la croix, de l'agneau de Dieu qui devait être offert pour le salut de l'humanité. Donc dès la Genèse, le Seigneur donnait déjà le plan du salut. Quand l'homme est péché, juste après, Dieu a pourvu au plan de la rédemption. Mais regardez, ce que Dieu est en train de faire a un double sens, que deux fois nous négligeons. Le Seigneur, non seulement qu'il est en train de le couvrir afin de permettre à l'homme de se tenir au devant de lui, mais en même temps, le Seigneur est en train de prendre soin de la vie physique de l'homme. L'homme avait besoin de se protéger, l'homme avait besoin de se couvrir, le Seigneur a pourvu aux besoins physiques, aux besoins naturels de l'homme. Par le même fait, il pourvoit à son besoin spirituel, mais automatiquement et directement, il répond aussi à son besoin physique, matériel. Voilà pourquoi nous disons, le salut que Dieu nous offre, le salut que Dieu nous donne par Jésus-Christ n'est pas seulement un salut qui nous touche dans notre esprit, mais c'est un salut qui répond aussi aux besoins de notre physique, aux besoins de la vie quotidienne. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cet élément-là. Alors, dans le chapitre 12, nous allons aller rapidement. Dieu qui appelle Abraham. Par Abraham, il lui donne Isaac. Par Isaac, Jacob vient, les 12 tribus d'Israël qui forment les enfants d'Israël. Et au travers d'Israël, ce que Dieu dit, c'est que déjà au départ avec Abraham, quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu dit ceci à Abraham, « Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Là encore, le Seigneur manifeste déjà son besoin de se révéler à l'humanité. Amen. Alors, quand Isaac vient, Jacob vient, et c'est la nation Israël qui est formée. Dieu choisit le peuple d'Israël comme étant la nation par laquelle l'Éternel va se manifester aux autres nations, aux autres peuples. Amen. Le Seigneur voulait atteindre les autres, mais au travers d'Israël. Il a choisi Israël afin qu'Israël puisse le présenter auprès des païens, auprès des gentils, afin qu'eux aussi parviennent au salut. Amen. Donc nous voyons que dès les temps anciens, le Seigneur lui-même se présente comme le Dieu de la mission. Amen. Depuis le début, depuis Genèse, Dieu se révèle comme étant un Dieu de mission. Et ce qui est encore intéressant, c'est que quand nous allons plus loin, pardonnez-moi, comme le temps est passé, je ne saurais pas suivre vraiment tous les éléments du PowerPoint. Tous ceux-là qui veulent l'avoir, vous pouvez me donner vos flash disques, vous allez prendre ça. Ok? D'accord. Alors, quand nous allons plus loin aussi, même quand par Israël, le Messie est venu, Jésus-Christ est venu,
La Bible nous fait voir que Dieu s'est incarné en son Fils afin de nous donner le salut. C'est que non seulement que Dieu se révèle depuis l'ancienne alliance comme étant le Dieu de mission, mais Dieu se révèle lui-même comme étant un Dieu missionnaire. La mission, c'est quoi? C'est même ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. Dans d'autres religions, c'est l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu, pour chercher Dieu. C'est ça même la religion. La religion, par définition, c'est la quête de l'homme pour atteindre Dieu. C'est ça la religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est Dieu qui recherche l'homme. Amen. Et quand le Seigneur se manifeste, que ce soit par Abraham, que ce soit par Moïse, que ce soit par Jonas, quand il envoie Moïse aller délivrer les enfants d'Israël, il dit maintenant, je descends pour délivrer les enfants d'Israël. Quand il envoie Jonas à Ninive pour prêcher afin que le peuple se repente, quand il vient en Christ Jésus réconciliant le monde avec lui-même, Dieu se manifeste lui-même comme étant un Dieu missionnaire qui vient vers l'homme, qui vient chercher l'homme qui était perdu. Alléluia. Donc, la mission n'est pas une affaire de l'homme. La mission n'appartient pas à l'Église. Est-ce que vous me suivez? Quand on parle de la mission n'appartient pas à l'Église. L'Église, en soi, n'a pas de mission. La mission appartient à Dieu. À chaque fois que l'on parle de la mission, on parle de la mission de Dieu. Et Dieu a choisi de se servir de l'Église afin qu'au travers de l'Église, qu'il accomplisse et qu'il réalise sa mission. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de choses que j'ai sautées, que vous allez lire pour ceux qui sont intéressés. Alors, la mission, comme je l'ai dit, c'est l'œuvre de Dieu qui se tourne vers le monde. C'est ce qui fait la différence avec les autres religions. La mission a son origine dans le cœur même de Dieu. Dieu est la source la plus profonde de la mission. Pourquoi? Parce que nous disons ceci, il y a mission parce que Dieu aime l'humanité. Sans l'œuvre de salut de Dieu envers l'humanité, la mission n'existe pas. La mission est le mouvement de Dieu vers le monde. Dieu s'intéresse à l'homme et il s'intéresse à l'homme intégralement. Amen. Alors nous disons ceci, la mission reste et demeure d'abord une œuvre divine. Mais dans sa souveraineté, Dieu choisit et envoie l'Église pour participer à la mission, à sa mission. Alors, un point important, c'est qu'il est convenable que nous puissions faire la différence entre la mission en elle-même et les activités d'une Église locale. Amen. La mission, comme nous avons dit, ça appartient à Dieu, mais une Église locale peut organiser plusieurs activités afin d'accomplir la mission. La mission de Dieu. Okay. Et nous allons revenir aussi à cela. J'aimerais aller rapidement à cette étape afin de plus m'appesantir sur l'autre aspect. Alors, au point 3, nous disons ceci, par rapport au fondement de la mission, c'est que la mission se retrouve être la raison d'être même de l'Église. Alléluia. Une Église qui n'a pas une vision missionnaire n'a pas sa place. Ce n'est même pas une église. Parce que la pensée de Dieu pour l'église, c'est que l'église puisse avoir une vocation missionnaire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu ne nous a pas envoyé, écoutez, laissez-moi vous dire, Dieu ne nous a pas envoyé pour construire des églises tout simplement. Non, Dieu nous a envoyé afin d'aller vers ceux qui sont perdus, afin de toucher ceux qui sont perdus, afin de manifester son amour dans ce monde. Alléluia. Donc, voilà pourquoi l'Église, le concept de mission est très attaché à l'Église. Il n'y a pas d'Église sans mission. Alors, si vous rencontrez une Église qui n'a aucune pensée missionnaire, c'est que cette Église n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut susciter une église que par rapport à sa mission. C'est quoi la mission de Dieu? Aller vers l'homme, sauver l'homme, toucher l'homme. Et pas seulement le sauver dans son esprit, mais dans son âme et dans son corps. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, à un moment donné, quand l'église commence à se renfermer sur elle-même, nous venons dans la maison de Dieu, nous levons nos mains, nous adorons, nous chantons, après nous fermons nos bibles, nous rentrons chez nous, le dimanche d'après, nous venons, nous faisons la même chose. Au bout d'un temps, l'Esprit de Dieu commencera à se retirer de cette église. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu travaille là où les gens œuvrent dans la mission. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'au fil du temps, même dans l'histoire de l'Église, l'Église a commencé à perdre sa puissance dès le jour où il a commencé à perdre la pensée missionnaire. Alléluia. Pour ceux qui ont l'habitude de sortir pour aller évangéliser, vous allez vous rendre compte, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, que la puissance de Dieu se manifeste fortement dès l'instant que tu quittes quelque part pour aller annoncer l'Évangile. Demandez à ceux qui sont dans l'évangélisation, ceux qui sont habitués à l'évangélisation, ils vont vous dire ces choses. Reviens dans l'église locale. Frère, tu vas prier, tu vas faire des déclarations, chasser des démons, mais tu dégageras une partie infime de ce que Dieu a déposé sur toi. Mais dès l'instant que tu es dans le champ de Dieu, en ce moment-là, le Seigneur déploie son zèle afin que son règne soit établi. Pourquoi? Parce que le but même pour lequel Dieu te donne ces choses, c'est pour la mission. Alléluia. Remarquez, le premier jour où, je pourrais dire, l'église est née, le jour de la Pentecôte. Comme vous le savez, on a eu à en parler ici, lors du séminaire des fêtes d'Israël, quand Dieu ordonne la fête. Parmi les fêtes, il y avait la fête de Pentecôte. Donc, la Pentecôte ne commence pas avec l'effusion du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà avant l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte existait. Chaque année, les enfants d'Israël, de partout, de là où ils étaient, ils revenaient, ils rentraient à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après les déportations, les Juifs ont été dispersés en dehors de la Palestine. Il y en a qui étaient en Afrique, il y en a qui étaient en Europe, il y en a qui étaient en Mésopotamie, il y en a qui étaient en Chypre, en Pamphylie, en Élam. Élam, c'est Irak actuel. Les enfants d'Israël étaient dispersés partout dans le monde. Ce qui fait que de là où ils étaient devenus pratiquement des habitants de là parce qu'ils parlaient des langues de là, ils avaient toute leur vie là-bas. Ils revenaient seulement une fois l'an à Jérusalem pour adorer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est un Dieu stratège. Pourquoi il choisit de faire descendre son Saint-Esprit seulement le jour de la Pentecôte? Vous savez pourquoi? À cause de la mission. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces juifs qui étaient en déportation, qui étaient en diaspora, qui constituaient les juifs de la diaspora, pendant la Pentecôte, ils rentraient tous à Jérusalem. Ils se rassemblaient tous à Jérusalem. Et la Bible dit que c'était pendant ce temps-là où tous ces juifs étaient revenus, tous ces juifs étaient à Jérusalem, qu'ils ont soudainement entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors ils ont tous couru vers l'endroit où le bruit venait pour voir ce qui se passait. Et ils ont vu des hommes avec des langues de feu qui parlaient, qui criaient, qui disaient des langues de foi qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont dit non mais ces gens sont ivres, qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre se levait sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Il s'est mis à parler à ces gens. Ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de ce qu'a prophétisé le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Il s'est mis à parler. Il a prêché l'évangile. Il a prêché Christ crucifié. La Bible dit que la puissance de Dieu était si forte qu'il y avait 3000 convertis. D'un coup. Et parmi les 3000 convertis, il y avait tous ces différents peuples de divers coins du monde, de divers horizons. Il y avait ceux qui étaient venus des Pamphylie, des Chypre, des Mésopotamie, de l'Égypte, des Libye, de l'Europe. partout ils étaient réunis là. Et ils étaient touchés, et parmi eux, plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Quand la fête est finie, chacun était obligé, et Dieu est un Dieu stratège. Le Seigneur descend le Saint-Esprit leur donne de parler en de langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais chacun les entendait parler dans sa propre langue, la langue de là où ils venaient. Ok? Cela est une image forte que la volonté de Dieu, c'est la mission. Le premier jour de la naissance de l'Église, Dieu suscite des premiers missionnaires. Tous ces gens qui ont été touchés après la fête, ils sont rentrés chez eux et ils ont constitué la première équipe missionnaire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé autour de Babel. L'homme se dit, les hommes se sont dit, nous n'allons pas nous disperser sur la face de la terre. Parce que Dieu voulait que l'homme se disperse afin de répandre son royaume, afin d'étendre son règne. Les hommes se sont dit, non, nous allons rester ensemble. Nous allons nous construire une tour, nous allons nous donner un nom, nous allons tous rester ensemble. La Bible dit que Dieu a confondu leur langage. Ils avaient tous un seul langage. Dieu a donné une multiplicité de langages. Ils ne se comprenaient plus. Et ils se sont disputés. Finalement, chacun a pris son chemin. Chacun est allé de son côté. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, c'est que l'homme puisse se repentir. Dieu a diversifié les langues. Et le jour de la Pentecôte, Dieu qui avait diversifié les langues a fait que la réconciliation puisse revenir par la langue. Donc c'est lui qui ne connaissait même pas une langue. Dans la tour de Babel, la langue que tu parlais, mais tu as l'autre a l'impression que tu ne parles plus la langue habituelle. Et le jour de la Pentecôte, la langue que tu ne parlais pas, l'autre se rend compte que tu parles parfaitement cette langue. La confusion que Dieu avait mise, pourquoi? Parce que l'homme avait refusé de se repentir, le Seigneur l'a restauré pour que l'homme se repent. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu missionnaire. Vous allez vous rendre compte que plus tard encore, quand l'Église a commencé à se plaire que d'être ensemble, la Bible dit, ils mettaient tout en commun. Ils vivaient ensemble. Ils se partageaient tout. Ils étaient constamment ensemble. Le même problème est revenu. Je dis, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe? À Babel, je les ai dispersés pour qu'ils se repentent. Je leur ai donné de parler en plusieurs langues pour leur faciliter de se repentre. Mais voilà qu'ils se mettent ensemble et ils veulent rester ensemble. Ils ne veulent plus se repentre. Dieu a dit, je vais les aider à se repentre. Et le Seigneur envoie la persécution. Quand la persécution est venue, les apôtres se sont dispersés. Finalement, partout ils s'étaient enfermés à répandre l'évangile et la mission a été de nouveau rétablie. Dieu est un Dieu missionnaire. Pourquoi? La Bible dit dans Galates, le chapitre 4, prends le verset 4 si je ne m'abuse. La Bible dit, quand le temps fut accompli, le Seigneur Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Pourquoi? J'aime la version anglaise qui dit « in the fullness of time ». Cela veut dire dans la plénitude de temps. Que le temps était devenu une grande quantité. Non, mais le temps parfait. Le temps T que Dieu attendait. Pourquoi le Seigneur attendait ce temps-là? C'est que Israël, les enfants d'Israël étaient sous la colonisation romaine. Et les Romains étaient très forts à l'époque. À l'époque, les Romains ont construit des routes. Il y a même un adage qui dit qui langue à Rome va. Tout chemin mène à Rome, les latinistes connaissent. Tout chemin mène à Rome. Pourquoi? Parce que les Romains avaient construit des routes, des pistes. En fait, ces pistes servaient à faciliter leur déplacement lors de leur conquête. Ils voulaient qu'à chaque fois qu'ils allaient conquérir un territoire, qu'ils puissent avoir la facilité d'aller, de revenir, de faire leur commerce et tout ça. Alors, il y avait encore une autre chose, c'est qu'avant l'Empire romain, il y avait l'Empire grec. L'Empire grec a dominé sur le plan culturel, ce qui fait que même lors de l'Empire romain, la culture grecque était encore très forte. Voilà pourquoi à l'époque on parlait le grec. Alors quand la Bible parle de la plénitude de temps, Le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était le moment parfait où la parole allait se répandre avec une certaine facilité qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas autant de pistes, il n'y avait pas autant de routes que le Romain avait installées, instaurées. Dieu a attendu que les structures soient en place, que les infrastructures soient en place, les infrastructures de la mission, pour qu'ils viennent. Et une autre chose, c'est que l'Empire romain était tellement puissant que quand il dominait un territoire, il colonisait le territoire, il imposait sa langue. On parlait le grec. Voilà pourquoi, quand les disciples sont venus, même le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'était une langue que tout le monde pouvait parler, que tout le monde pouvait comprendre. Dieu a attendu qu'il y ait une langue que les gens, une grande partie de la terre pouvait comprendre pour que l'évangile vienne et que le Nouveau Testament soit écrit en cette langue-là et que la répansion, la propension soit facilitée par toutes les infrastructures qu'il y avait. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu missionnaire. Dieu aime la mission. Waouh! Mon laptop est lobat. Ok. Ok, tu avances. On va travailler avec toi. Voilà. Alors, si vous voyez même certaines images avec lesquelles la Bible parle de l'Église, vous allez voir que la Bible compare l'Église à la lumière. Il dit « Vous êtes la lumière du monde ». La Bible compare l'Église au sel, vous êtes le sel de la terre. Tu peux passer rapidement. La Bible parle de l'Église comme étant des ambassadeurs de Christ, comme une lettre vivante de Christ. Non, rentre un peu. Ok. Tu restes là, s'il te plaît. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais mentionner. Je l'ai dit au début. La mission ne doit pas être comprise tout simplement dans l'aspect évangélisation. Parce que ça, ce n'est qu'un élément. Parce que rappelez-vous, l'homme n'est pas qu'esprit, l'homme est aussi âme, l'homme est aussi corps. Donc la mission doit prendre en compte toutes les dimensions hommes. Alléluia. La mission ne doit pas être comprise seulement dans le sens géographique, comme étant la mission sur une terre étrangère impliquant plutôt le voyage. Toutes les activités de l'Église comportent une dimension missionnaire et reflètent sa participation à la mission de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant très longtemps, nous avons aussi eu un mauvais entendement de la mission. Nous avons cru que l'Église était en train de faire la mission que dès l'instant où il envoyait des missionnaires vers des endroits reculés, vers les forêts, vers des pays lointains. Alors, en ce moment-là, on pensait que l'Église était en train de faire la mission. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi un élément de la mission. Parce que ce qui est vrai, c'est que même là où nous sommes, même sur place, nous pouvons être en train de vrai dans la mission. Il y a un cours que j'ai beaucoup aimé, qu'on nous a donné lors de la formation. Ce cours parlait des missions urbaines, des missions en milieu urbain. Parce que, vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme crise économique et tout ça, il y a beaucoup d'exos. Des peuplades, des villages sont en train de quitter les villages. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Ils sont en train de remplir et d'envahir les villes. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passait quand, au lieu que nous, Église, que nous puissions nous déplacer vers les villages pour atteindre les gens, peut-être que le Seigneur s'est rendu compte que l'Église était en train de traîner. Le Seigneur a fait des choses de manière à ce que les gens vers les villages puissent quitter les villages, puissent venir vers l'Église là où l'Évangile se trouve. Amen. Et nous aurons donc maintenant beaucoup de facilité à faire la mission. Je vais vous donner un autre exemple. On va revenir. Vous savez, il y a des pays, comme j'ai eu à le dire le dimanche, où l'Évangile est interdit. On ne peut pas prêcher l'Évangile. Quand vous allez en Irak, dans tous ces pays-là, vous ne pouvez pas prêcher l'Évangile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, le Seigneur permet que ces gens-là, que ces Indiens, ces Hindous puissent venir ici, aller sur commerce. Vous allez voir beaucoup d'Indiens qui ouvrent des boutiques et qui emploient des Congolais. Le Seigneur s'est peut-être rendu compte que nous, au lieu d'aller vers eux pour évangéliser, nous n'allions pas. Il a fait qu'eux puissent venir. Même les Chinois. Dieu fait que les Chinois puissent quitter la Chine.
qu'ils puissent laisser le bouddhisme et tout ça, qu'ils viennent ici en RDC. Vous croyez qu'ils viennent pourquoi? Mais pour que nous puissions leur prêcher l'évangile. Alléluia. Frère, nous devons ouvrir notre conception de la mission. Même ici, à Kinshasa, nous pouvons faire de la mission. Mission au ciblé, ciblé bas chinois. Tu te dis, la mission dans bas chinois. La Bible dit, allez par toute la terre, faites de toutes les nations mes disciples. Mais cela ne veut pas dire seulement que tu dois quitter là où tu es pour aller vers les autres nations. Dès l'instant que les autres nations viennent, toi, va vers eux, évangélise ces gens-là, tu prêches à toutes les nations. Et l'évangile est en train de se répandre, et c'est ça la mission. Il y a tellement de Libanais ici. Au Liban, là-bas, vous ne pouvez pas parler librement de l'évangile. Mais ils sont ici, chez nous, nan Europexayo Teaï. Nan. Dieu t'a donné l'autorité au salaire, je ne sais pas moi, na cadastre, au salaire, na DGI. Libanais, mon raïe, a besoin de papier. Quelle opportunité! Je vais te donner les papiers, mon frère, mais il faut que je t'explique deux ou trois choses. Alléluia. L'église doit se lever pour la mission. Écoutez, si nous ne nous levons pas, le Seigneur va se retirer de nous. Et même une église prospère, c'est cette église qui participe à la mission. Il y a plusieurs façons de participer à la mission. Peut-être que toi, tu te dis, bon, moi, je ne vais pas quitter ici pour aller prêcher l'évangile. Mais tu peux participer à la mission par tes financements. Tu peux financer des structures de mission. Alléluia. Vous savez, quand j'ai dit que Dieu, dans la mission, il s'occupe de l'âme, de l'esprit, de l'âme et du corps, dans l'aspect social, ça c'est quelque chose que nous avons négligé dans notre pays. Mais la mission est très efficace dans les œuvres sociales. Amen. Papa Deo et Jean-Claude nous en ont parlé. Moi je prends tout simplement l'église, enfin, l'exemple des catholiques. Les missionnaires catholiques, quand ils sont venus, nous pouvons dire tout ce que nous voulons là contre les catholiques, mais ils ont fait un travail sur le plan social. Ils ont implanté les églises. Nani awa atanga na église catholique à Tombola Moussapi. Tombola Moussapi, autant une école catholique, Tombola Moussapi. Nzamba limbi sa yondongo finga ba catholique. Personne ne peut nier l'impact de la mission catholique dans sa vie. Personne. Voilà pourquoi aujourd'hui on a du mal à convertir nos pères, nos papas. Bato ya kala wana batanga na ba mission catholique. Moupe. Ah, tika. Ils ont eu un impact efficace. Pourquoi? Parce qu'ils ont su détecter le besoin du peuple et ils ont répondu. La mission, c'est la réponse à un besoin. Que Dieu nous ouvre les yeux. La mission, c'est d'être capable de détecter, d'identifier les besoins de la communauté. Alléluia. Vous savez comment on arrive à convertir un musulman? Un musulman, tu arrives difficilement à le convertir en le prêchant comme ça. Il y a même des musulmans qui connaissent les écritures bien, qui connaissent ça de manière très tordue, mais ils vont essayer de te convaincre. Quand c'est un peu comme quand on est allé visiter cette mosquée. Ce monsieur-là, il a tenté de nous convaincre. De nous convertir à l'islam. Mais ce garçon n'est pas sérieux. Papa de Walingo, bon, maïe, penana ba question, mais... Te calmer, comme on avait besoin de récolter un maximum possible d'informations pour bien les comprendre, bien les maîtriser et bien les prêcher. On s'est dit non, écoutons-le seulement. Alors ces gens-là, comment est-ce que nous arrivons à les atteindre? C'est quand nous touchons leur âme. Manifeste de l'amour à un musulman. Quand il est malade, tu vas le voir, tu l'assistes, tu le soutiens, tu lui manifestes de l'amour. Et un jour, il se rendra compte qu'il y a quelque chose que toi tu as, que eux n'ont pas. Parce que ces gens-là ne connaissent pas l'amour. Ils ne connaissent pas. On n'avait pas compris. Quand ils nous parlaient, on s'est dit, mais où est la place de la repentance? Est-ce que chez vous, on parle... Vous savez qu'à l'islam, on ne parle pas à Dieu. Vous ne pouvez pas demander des choses à Dieu. Ça, c'est eux-mêmes qui nous ont dit ça. Vous ne pouvez pas demander des choses comme ça à Dieu. Dieu est trop loin, Dieu est trop saint.
Dieu est méchant, Dieu est prêt à frapper. C'est le Dieu qu'on leur a prêché. Et ces gens-là, dès l'instant qu'ils entrent dans un environnement où il y a de l'amour, où quelqu'un leur manifeste l'amour de Dieu, ils sont touchés. Quand j'étais au Maroc, une fois, une de nos sœurs a invité des Marocains, là, des musulmans, à venir à l'église. Et le papa est venu avec son enfant. Quand il est entré dans l'église, il s'est mis à dire, mais c'est ça la vérité, nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ça, c'est vraiment ça. Il s'est rendu compte que c'est ça la chose qui lui manquait. Malheureusement, dès qu'il est sorti à l'église, la police l'a intercepté. Il ne pouvait plus revenir. Et quand on a dit ça à la sœur, c'était une sœur canadienne qui les avait invités. On l'a dit qu'il ne faut plus inviter les Marocains à l'église parce que ça va nous attirer de problèmes, on va fermer et tout ça. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Seigneur, mais ces gens ont besoin de l'évangile. Et bon, si quoi, Marocain, on a baillé, Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que nous devons entrer dans une autre phase de la mission, l'impact dans la société, dans la communauté. Amen. Les catholiques ont eu de l'impact parce qu'ils ont créé des écoles. Ils ont créé des hôpitaux. Ça, c'est quelque chose que nous ne savons pas encore faire. Nous sommes prêts à critiquer, à parler. Mais Missa les athées. Nous devons entrer dans cette phase. Voilà pourquoi je crois que le centre missionnaire Philadelphie, nous devons entrer dans cette phase. Nous devons construire des écoles. Nous devons construire des hôpitaux. Nous avons vu de structures missionnaires où ils ont un hôpital. Et cet hôpital reçoit les désœuvreux, reçoit des orphelins, reçoit des pauvres. Quand tu viens, tu te fais soigner, tu ne payes pas. Tu te fais soigner, tu as ton traitement, tu ne payes pas, tu pars. Et le lendemain, si tu es malade, tu reviens encore, on te traite. Et avant que tu partes, on te donne à manger, on te donne des vêtements. Tu pars. Et après, on t'invite à l'église. Quand tu viens à l'église, ils te prêchent l'amour de Dieu, tu te compte que ce que les gens font, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent. Et ça touche le cœur. Et l'autre fois, je vous ai dit, il y a de ces structures, de ces orphelinats qui ont pris des enfants quand ils étaient tout petits, sans parents, sans père ni mère. Ils ont pris ces enfants-là, ils les ont élevés. Ils ont donné de l'instruction. Bah, koti, bah, on a bah, école. Bah, na, bah, koli, bah, koti, bah, on a université. Bah, na, bah, koli, bah, loukeli, bah, on a mis ça, là. Ces gens-là travaillent aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui finance ces orphelinats. Mais moutonné, on a eu Ebisenini. C'est un peu comme cette personne qui a été guérie par Jésus. Il était aveugle. A Ebisenini, on habite là. Ceux qui ont un grand, on a évité. Ceux qui ont un grand, on a évité. Mais c'est que je sais. Il y a des choses qui restent. Plus ça reste, plus que beaucoup de paroles. Okoloba, trop, mais peu d'impact. Mais soutiens quelqu'un qui est dans le besoin. Écoutez, tu n'as pas besoin d'aller en Irak pour rencontrer des besoins de la communauté. Regarde autour de toi. Les gens qui sont autour de toi, quand tu sors devant ta maison, c'est qui est à ta gauche, c'est qui est à ta droite. Et quels sont besoins? Pourvois à ce besoin-là quand tu le peux. Et demain, quand tu lui parleras de Jésus, il sera touché. Je vais vous dire, frère, évolue un peu. Évolue rapidement. Je vais te dire juste là où tu vas t'arrêter. Vas-y. Les gens qui ont besoin de ça, ils vont amener des flashs. On va leur donner ça. J'étais dans un pays étranger. Un jour, je parlais des flashs. Est-ce que je peux avoir un flash disque? Je me suis mis à se moquer de moi. Flash, c'est quoi? USB. Ah, ok, d'accord. Ok, on évolue. Vas-y. Voilà. J'aimerais que l'on parle de la fenêtre 1040. Vas-y, avance. La fenêtre 1040, parce que vous savez que sur les statistiques mondiales, il y a à peu près 6,75 milliards d'habitants sur Terre. Ok? Alors, parmi ces 6 milliards d'habitants, il y a à peu près 2,80 milliards personnes, individus, qui n'ont jamais été atteints par l'évangile. Vous comprenez? En pourcentage, c'est à peu près 41%
de gens sur ces mondes-ci, aujourd'hui, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Vous savez que même ici en RDC, il y a des peuplades qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Quand vous allez vers le sud, le nord de la RDC, vous allez chez des pygmées, il y a des peuplades qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Et nous ici, on est très confortables, nous pensons que nous travaillons. Non, il y a du travail à faire. Alléluia. Oui, tu peux passer. Alors, il y a ce que l'on appelle la fenêtre 1040. Passe encore. Voilà. Ça, ce sont les statistiques. C'est que cette fenêtre 1040, vous allez voir ça parce que tout à l'heure, le tableau, va un peu dans le tableau. Tu vas revenir à ça plus tard. Voilà. Donc, reste sur cette carte. Vous voyez la partie rouge, là. C'est cette partie rouge que l'on appelle la fenêtre 1040. C'est dans cette fenêtre qu'il y a des pays qui sont fermés par rapport à l'évangile. C'est dans ces pays. Avance un peu. Avance rapidement. Voilà. C'est dans cette fenêtre qu'il y a l'Afghanistan, qu'il y a l'Algérie, qu'il y a de Bénin, Burkina Faso, qu'il y a le Cambodge, qu'il y a la Chine, qu'il y a tous ces pays que vous voyez là. Ils se retrouvent dans la fenêtre 1040. L'évangile ne peut pas passer dans cet espace-là. C'est interdit. C'est interdit. La loi, le gouvernement a strictement interdit l'évangile dans la plupart de ces pays. Si vous y allez pour prêcher l'évangile, soit on vous arrête, soit on vous tue carrément. Et il y a l'un de nos profs qui lui a vécu en Irak. Il est venu nous raconter un peu comment est-ce qu'il a fallu perdre la vie en Irak. On l'a tabassé, on l'a maltraité à mort. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est que les ONG se sont rendus compte qu'il était en danger. Alors les ONG à l'extérieur, ils ont commencé à faire de bruit sur Internet. Il y a eu des blogs, il y a eu sur Facebook. En tout cas, des gens se sont mobilisés. Quand la communauté internationale a été saisie de l'affaire, ils ont intervenu, ils ont envoyé des gens pour aller les récupérer. Maintenant, il est basé comme réfugié en Afrique du Sud. Mais il était à deux doigts de mourir. Et il nous dit, même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent encore dans cette situation. On a l'impression que c'est du passé, mais ce n'est pas le passé. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ces pays-là, tu ne peux pas aller comme ici. Tu entres dans un bus. Alléluia, amen. J'ai aimé ce qu'un frère m'a dit. Il m'a dit, lui, la vision que Dieu lui a donnée. À côté, il y a un bus. Il donne au receveur, il dit, mais j'ai un message à vous dire. Et il commence à le prêcher. Alléluia. Alors, comment ça se passe l'évangélisation dans ces pays-là? C'est que ces gens-là ont monté des organisations, des structures missionnaires, mais pas comme ce que nous connaissons. C'est-à-dire quoi? Ils montent même des entreprises. Une entreprise de communication, de télécommunication, des imprimeries, beaucoup d'autres entreprises. Le boss de cette entreprise, c'est un missionnaire. Mais il a un passeport d'un businessman et il a monté son entreprise. Alors, son évangélisation, c'est de vivre correctement. Il respecte le droit des employés. Il donne un salaire convenable. Il manifeste de l'amour. Quand un malade, il est prêt à assister. C'est tout ce qu'il fait et c'est ça l'évangélisation. Quand le gens et Dieu, le Seigneur reprend son onction sur telle personne de manière à ce que cela puisse avoir l'impact. Et quand ces gens-là voient, quand ces gens-là vivent avec eux, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose en eux que nous avons pas. Et ils approchent. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es si différent. Alors il commence à leur parler de sa vie. Voilà, je suis chrétien, j'ai reçu Christ dans ma vie. Tu vois ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire. C'est comme ça que ces gens-là évangélisent. Amen. Alors, pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre? Dieu nous a placés ici afin d'influencer la communauté. Comment? Par notre bonne vie. Là où tu travailles, vis correctement. Sois intègre, poli, respectueux. Disponible. La Bible dit, quand quelqu'un te demande de faire un pas, fais-en deux avec lui. Le chef te demande de balayer, tu balayes correctement. Ces gens-là vont sentir. Mais aujourd'hui, ce que nous donnons, une toute autre image de notre Dieu. Des chrétiens qui se disputent dans les entreprises. Mais un chrétien, chrétien. Alléluia.
Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vivre la mission par notre mode de vie. Que nous puissions communiquer cette vie qui va toucher les gens.
Alléluia. Et toujours dans ces structures missionnaires, comment est-ce qu'ils s'organisent quand ils arrivent dans un territoire, ils cherchent à identifier le besoin de la population. À cette population, il y a un problème d'eau potable. Qu'est-ce que nous allons faire? Avant même de commencer l'évangélisation, ça c'est pas dans la fenêtre 10-40, ça c'est dans d'autres territoires. Avant même de commencer l'œuvre de l'évangélisation ou l'œuvre de la mission, puiser la source d'eau, d'eau potable. Ils donnent à la population de l'eau potable. Les enfants n'ont pas d'éducation parce qu'il n'y a pas d'école. Ils montent des écoles. Ils commencent à donner des cours d'alphabétisation. Ils répondent aux besoins de la communauté. Et quand ils parlent de l'évangile, l'évangile passe parce qu'il y a une porte qu'ils ont déjà ouverte. Quelles sont les portes que tu peux ouvrir dans ton environnement qui peut faciliter l'évangile? Pendant 2 secondes, réfléchis un peu. Là où tu vis, qu'est-ce que tu peux faire? Côté athée, je ne parle pas de l'évangile, je parle d'influencer la communauté, d'impacter la communauté, d'échanger, de transformer la communauté. Qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous dormons. Montons des ONG, ville propre, organisée par un chrétien. Il y a une structure missionnaire que nous avons rencontrée, c'était à Pumalanga ou je ne sais pas, Africa Enterprise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette entreprise, ils ont créé des ONG. Ils entrent dans la société, ils s'intéressent aux problèmes de la société. Ils répondent aux besoins de la société. Ils créent des écoles, des structures pour apprendre aux gens à étudier. Ils s'intéressent à la propriété de la ville. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, eux, ils vont, ils montent des structures, ils balayent, ils coupent les herbes, ils montent des parcs, ils embellissent la ville. Et le gouvernement est touché. Et quand ils voient ces gens faire, ces gens ne demandent rien au gouvernement, ces gens ne demandent rien à l'hôtel des villes. C'est eux qui apportent leur contribution, ils changent la ville. Et ça, c'est comme monter ONG, non, comme au commun, donc au conseil, demande des fonds pour tes propres poches. Mais eux, ils donnent à la communauté, ils donnent à la société. Et vous savez, leur vision, c'est quoi? Dès l'instant qu'ils ont infiltré comme ça la société, ils ont gagné le cœur de toutes ces autorités, alors ils les invitent, par exemple, à des cocktails. L'autorité, il y a un cocktail. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses, mais ça, les hommes, les gouvernements, les autorités sont intéressés. Ces gens-là travaillent pour la communauté. Et quand ils organisent des cocktails ou ils organisent des manifestations, ils invitent des autorités de la ville, des autorités de la ville viennent, ils les prêchent et ces gens sont touchés par la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par répondre à un besoin. Il y a des ONG que nous pouvons monter. Sur Obimika, on a quoi? On m'a dit, c'est la saleté, ça va côté mon boué. Ne laissons pas. La Bible dit que les enfants de ces siècles sont plus sages que les enfants de la lumière. Ils montent des ONG, malheureusement, c'est pour leur propre poche. Si nous, les chrétiens, nous pouvons monter des ONG. Pour embellir la ville, pour assainir la ville. Et au travers de cela, le gouvernement va nous donner, je ne sais pas moi, peut-être de l'espace, peut-être de certaines autorisations, et nous profitons de ces autorisations-là. Tout bon, si moi, comment il y a ville, il y a salité. Tout bon, si on te tient pancarte, autant cet endroit a été transformé, autant ton cœur peut être changé. Alléluia. Je m'en vais finir. La mission, elle est vaste, vaste, vaste. Et je crois que nous devons tous nous impliquer dans la mission. Pourquoi j'ai parlé de la fenêtre 10-40? Parce que très souvent, nous ignorons cela, mais il y a des gens qui meurent. Si nous ne pouvons pas aller là-bas, mais nous pouvons au moins nous investir dans la prière pour ces gens-là. Bien-aimé, la prière fonctionne, la prière agit. La prière brise le forteresse. Tes prières que tu fais dans ta chambre, ça peut changer quelque chose en Irak. Ça peut toucher des cœurs en Irak. La mission se fait aussi par la prière. Impliquons-nous dans la mission. Alors, ici, pour la plupart, il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui travaillent dans des départements. C'est que dans les jours à venir, nous voulons mettre toutes ces choses en pratique. Nous voulons aller vers les Chégué, ou répertorier Chégué, pour un premier temps, on a la boussole à Rabango ti chaque tongo. La chèque va comprendre chaque tongo ti. Il y a le, on a l'été. Alors ils viennent avec précipitation, ils prennent du thé. Bonjour, le Rabango, le Rabango, au PC était Amélie Akei. L'obia y a au PC était Amélie Akei. L'obia n'a pas été le nom, n'a pas été raté, il y a un peu n'a pas quoi. N'a pas quoi pas y est te. Le Amélie Akei. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là vont commencer à se sentir en confiance. Ce sont des gens qui ont été rejetés, qui ont été blessés. Il y en a d'autres qu'on a traités de sorciers, de n'importe quoi, de vauriens. Ils ont besoin de l'amour. Dès l'instant que vous leur manifestez de l'amour, ils se sentent en sécurité et commencent à s'approcher. Et petit à petit, ils vont commencer à ouvrir leur cœur, parler de leurs problèmes. Voilà là d'où je viens. Et c'est une opportunité pour guérir le cœur brisé. Vous leur parlez de Jésus. Puisque vous avez déjà conquis leur cœur comme ça, cela a frayé le chemin pour l'évangile. Des fois, nous faisons mal notre évangélisation. Est-ce que c'est un baïs? Personne n'a pas un frère, il y a un général à quelle église? La parole de Dieu l'avait touché. Alors, il est passé devant pour donner son cœur au Seigneur. Je suis un baïs. Non, t'es mon général. Les gars, y a un. C'est comme ça que nous travaillons. Mais apprenons à manifester dans l'amour aux gens. Aux yeux, bah, chègue. Aux entretenir, bah, aux yeux, le banner, le remote. Aux yeux, singer, le remote. Aux yeux, entretenir, les gars. Aux yeux, PC, bilam. Aux yeux, PC, bilo, kagolia. Et quand un jour le Seigneur ouvrira une porte, tu lui parleras de l'évangile et la semence sera posée. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres façons de faire que vous pouvez imaginer. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. Aux attentes sous la médecine, tu es un médecin. Organise un jour, peut-être chaque vendredi, de 13h à 15h, je vais faire des consultations gratuites. Tu consultes. Il y a des gens qui font ça. En Afrique du Sud, nous avons vu beaucoup de volontaires, des ingénieurs, des médecins. Lui, il sait que Nzamba Pesangani a capacité à médecine. Je suis un bon médecin. Je vais mettre ça pour la mission. Chaque jour, de telle heure à telle heure, je vais me disponibiliser pour des orphelins, des veuves, je sais pas quoi. Yosa avocat, par exemple. Tu as un talent pour défendre des gens. Donne de ton temps pour défendre la cause des désespérés. Tu dis chaque jour, de telle heure à telle heure, je reçois ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui peuvent pas se payer un avocat pour des consultations et pour des conseils. Tu participes à la mission. Ces gens-là sauront que tu es un enfant de Dieu. Ils craindront Dieu. La Bible dit, là même où on vous critique, on vous minimise, que ces gens-là voient vos bonnes œuvres et ils rendront grâce à Dieu le jour où Dieu le visitera. La mission est vaste. Impliquons-nous à la mission. Amen.